Est-ce que vous vous souvenez que hier il y avait un suspense, quelque chose, j'avais créé un suspense. Est-ce qu'il y avait trop, c'était trop long là? Pour plusieurs d'entre vous, c'est pas un suspense, vous savez très bien quelles sont les deux autres caractéristiques dont je vais parler, mais donc c'était ça le suspense pour ceux qui n'étaient pas là. Hier j'avais parlé un peu de l'arc là, pour aller de la confusion à l'éveil, comme quelqu'un le présentait aujourd'hui dans une des rencontres. Je trouve que c'était une belle façon. Alors d'abord, on est... je vois que je suis un peu attaché à cet arc, j'aime beaucoup cette présentation. J'espère que vous l'appréciez aussi. Alors, on est dans nos idées sur les choses. C'est beaucoup... Je crois beaucoup, vous me direz si c'est vrai ou pas, mais c'est beaucoup autour de qui je suis, qui je pourrais être, qui je devrais être, qui j'aurais dû être, qui j'aurais... des trucs comme ça, là. Moi ou l'autre, même chose, l'autre, comment l'autre devrait être, etc. Puis on peut passer beaucoup de temps là-dedans. C'est plusieurs fois, je pense, je répète ça, mais... Et là, on arrive dans les sens, on est invité à... laisser tomber ces réflexions-là, ces pensées-là habituelles qui tournoient, éparpillées. Hein. Le Bouddha utilisait l'image d'un poisson qu'on sort de l'eau, puis qu'on met sur la rive, qui fait comme ça. Puis il dit, notre pensée est souvent comme ça. Alors on va penser à quelque chose du passé, c'est ça qui s'est passé, c'est ça qui est arrivé, je ne comprends pas pourquoi c'est ça qui est arrivé. La prochaine fois, là, oups, on s'en va direct dans le futur. Quand cette chose-là va arriver à nouveau, si elle arrive, c'est ce que je vais faire. Puis là, oups, on revient dans le passé, puis alors on est comme ça. Et là, on est invité à, un peu comme l'image tiens, je vais changer l'image. Hier, j'ai dit un bouchon de liège à la surface de la rivière. Aujourd'hui, je vais utiliser une autre image qu'on voit dans les textes, qui n'est pas le bouchon de liège, mais qui est le melon d'eau. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive souvent de laisser aller un melon d'eau sur la rivière. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais dans les textes, on dit que le melon d'eau ne coule pas, mais qu'il se promène un peu comme ça aux vagues, en suivant le vent et les vagues. Puis, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on... En fait, on amène une attention qui descend là. Ou c'est même pas la tête qui observe les pieds, mais l'intelligence, tout à coup, la conscience est dans les pieds, dans les pas, dans les sensations. On connaît les sensations de l'intérieur des sensations. Ça aussi, c'est des instructions qui nous viennent de très très loin dans le temps là. Alors, connaissez les sensations, les mains dans les mains. On descend un peu. Alors l'attention descend comme une roche au fond de l'eau. Et là, les qualités particulières des choses ressortent. Hein? Alors là, on voit entre autres, si on prend juste, il y a les sensations, mais il y a aussi les états mentaux. Alors, il y a ça devient très, des textures particulières, là, celle de l'irritation, celle de la mélancolie, de la curiosité, de la surprise, de l'humour, de la gratitude, de l'orgueil, la honte, la joie, le contrôle. L'avidité, la plénitude, la malléabilité, le contentement, l'excitation. Alors ça, c'est des choses très particulières, des expériences particulières qu'on sent, au lieu d'être dans la transe de l'impatience, on sent l'expérience de l'impatience. Ah, la honte, au lieu d'être dans la honte, mais t'as mal fait, y croire, ah oui, la honte, ça pèse sur l'âme, on pourrait dire, de cette façon particulière-là. Alors, on s'intéresse à ces phénomènes-là dans leur spécificité. Et donc, on passe de la spécificité des choses. Certaines choses, c'est subtil. Certaines choses sont plutôt évidentes ou grossières. Certaines choses sont entendues, d'autres vues, senties, goûtées. Alors, tout est éclairé, là, tout à coup. Ça devient plus, un peu plus tridimensionnel. On sent la respiration, que ce soit quelque chose, oui, ça respire, ce corps-là. Ça coupe. Ah oui, zoom in, hein? Un peu comme si on entrait là, dans la narine, ou si on entrait dans le ventre. Ça gonfle à tous les sens. Et là, on va, avec la pratique, l'idée, c'est qu'on voit la spécificité des choses. Puis, ah tiens, petite parenthèse aussi. Là-dedans, il y a tout un champ très très beau de la pratique, très riche. Puis ça pourrait être ça pour toute une vie. C'est Au niveau des états mentaux, entre autres, c'est on commence à distinguer, discerner, à être plus spécifique à propos de qu'est-ce qui est enchaînant, qu'est-ce qui est libérateur, qu'est-ce qui produit du trouble pour moi-même, puis pour les autres, puis qu'est-ce qui allège le trouble, la confusion que je ressens, celle que je peux provoquer chez les autres aussi, tu sais. Alors, on devient très attentif à ça. C'est plus tellement le monde de moi, ce que je veux pas, mes préférences, mais on met les lunettes du dharma, là. Puis là, tout à coup, c'est « Ah, est-ce que c'est aidant, ça? Est-ce que c'est libérateur? Ah, la bienveillance! Je sens que c'est libérateur. Le jugement, est-ce que c'est libérateur ou enchaînant? » J'ai une expérience très spécifique de ça. Intuitivement, je peux reconnaître que « Ah, cette voix-là, la façon dont je me parle, le doute qui m'habite n'est pas un doute libérateur. Il peut y avoir une sorte de doute qui peut être libérateur. Par exemple, « Ah, Pascal vient de dire ça, je suis pas sûr de ça, laisse-moi aller vérifier. Je vais voir si c'est vrai, ce truc-là. » Alors j'avance. Il y a une sorte de doute. « Ah, est-ce que je fais les narines ou le ventre, metta ou vipassana? Est-ce que je reste ou je pars? » Parce que là, il ne se passe plus rien. Je peux reconnaître, ah oui, ce doute-là n'est pas engageant, ne me fait pas avancer. Il m'arrête, il m'immobilise. Je peux découvrir ça spécifiquement. Si je suis très attentif, je peux voir, ah oui, c'est un doute qui est paralysant peut-être. Alors qu'une autre, ça s'appelle peut-être pas le doute, mais la curiosité, une sorte de scepticisme avec beaucoup d'énergie dedans. Pas convaincu de ça, laisse-moi voir. Alors, bon, toutes ces nuances-là se font. Et là, on continue ce chemin-là. Et là, on passe, comme je le disais hier, on passe des caractéristiques spécifiques aux caractéristiques universelles. Oui, certaines choses sont bleues, d'autres rouges, certaines sont, on goûte, d'autres on pense, on clarifie tout ça. Mais toutes ces choses-là, dans leur, sont spécifiques, mais qu'elles ont en commun, c'est qu'elles passent. Elles passent. Elles passent, entre autres. Ça, c'est la première caractéristique. Les choses se forment, ont leur vie et se déforment. Hein? Ça, c'est la première caractéristique de l'impermanence. On peut réfléchir à ça, on peut dire « Ah oui, c'est vrai que les gens sont arrivés, ont passé, les époques ont passé, les choses passent, etc. » On peut réfléchir à ça. Nous, ce qu'on veut, c'est pas une réflexion là-dessus, quoique la réflexion est toujours la bienvenue, c'est un des niveaux de compréhension. Ce qu'on veut, c'est une expérience immédiate de la disparition d'un phénomène. On veut être là quand ce phénomène-là disparaît. On veut être là quand ce phénomène-là apparaît. Quand je disais l'autre jour, je ne me souviens plus, il y a une semaine ou deux, non, c'est hier ou avant-hier, est-ce que vous pouvez voir l'apparition de la prochaine pensée? Pas tellement le contenu, pas tellement ce qu'elle va dire, l'opinion qui va être émise, mais la naissance d'une pensée, par exemple. Ou dans mon histoire de la pizza, là, la disparition momentanée d'un état mental. Hein? Alors, l'impermanence des choses. Quand je vous parlais, entre autres, il y a une journée ou deux, là, je vous disais, quand l'arbre était tombé à la retraite, c'est ici, hein, que je vous ai raconté l'histoire de l'arbre qui est tombé. Je disais, je revivais tout à coup un grand deuil. Ah oui, c'était avec l'histoire de la pizza aussi. Alors, je revivais un grand deuil. Ce qui s'était passé quelques années auparavant, c'est qu'un jour, j'avais 25 ans, j'étais dans le bureau du médecin pour un truc très simple, mais en même temps, on avait fait des prises de sang, un peu de façon routinière. Et là, le médecin m'apprend que j'ai plus de système immunitaire. Comme c'est fini, le système immunitaire est détruit. C'est pas mon expérience immédiate, mais c'est le résultat de laboratoire dit ça. Et je me souviens qu'à ce moment-là, l'expérience pour moi, ça a été que quelque chose que je croyais solide, tout à coup, ça m'était révélé que c'était impermanent, que c'était pas quelque chose sur lequel on pouvait absolument compter. ou qui était mien. Ça va être une autre des caractéristiques dont on va parler. J'avais cru que cette santé-là était ma santé, alors que c'était de la santé, qui avait sa propre vie, puis qui là était disparue. Puis je me souviens que ça, c'est ce qu'on appellerait un insight. Là. Je me souviens d'être dans le bureau du médecin, et il me dit ça, et tout à coup, je comprends que il y avait une méprise. J'avais cru que j'étais en santé, même j'avais cru, je pense, que j'étais éternel. J'aurais pas dit ça dans une conversation en parlant à quelqu'un, mais comme une croyance plus profonde, j'avais cette croyance-là, puis tout à coup, là, j'apprenais que j'étais impermanent moi-même, ce que je considérais être moi-même, la santé. Puis je me souviens que c'était une expérience spirituelle. Il y avait un, tout à coup, on révélait, là, de la même façon que celui qui allait devenir le Bouddha, quand il se sauve, je ne suis pas en train de me comparer au Bouddha, là. on est tous dans le chemin du bouddhique, là, alors. Mais vraiment pas. Petit moment de chaleur intérieure. Attendez, je vais ajouter un. Je vais participer, là. Mais dans l'histoire de celui qui allait devenir le Bouddha, il y a un moment où il sort, il quitte le palais des plaisirs, enfin, on pourrait nommer ça comme ça, là, la sécurité, le confort, les bons goûts, les odeurs, la musique, etc. Puis il saute par-dessus les murs du palais et il va parce qu'il est curieux, il veut savoir qu'est-ce que c'est le monde au-delà de ça, là, pourquoi je reste insatisfait. Et il va se promener et vous connaissez peut-être l'histoire des quatre messagers divins, ou on appelle ça comme ça. Alors, il rencontre quelqu'un qui est malade, il ne comprend pas, on peut s'imaginer, là, que toujours vu des gens en santé, des gens qui jouent, des gens qui dansent, etc. Puis là, tout à coup, il voit quelqu'un qui est couché au sol, qui vomit peut-être, imaginons-nous, mettons ça un peu graphique, là, pour... Et là, il est en état de choc, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu sais? Et là, il apprend que son ami avec qui il s'est sauvé lui dit « Ah, mais ça, les êtres humains tombent malades, ça arrive. » Et là, il y a un choc. « Ah ouais, on n'est pas toujours bien. » Ensuite, il rencontre une personne très, très âgée. Et là, il y a un choc. Il voit que la... Qu'est-ce que c'est que ça, cette personne-là? Et là, c'est une personne qui a vieilli, alors qui est courbée comme ça, qui est un peu desséchée. Et là, il y a un choc. Ah oui! Et ensuite, il voit un corps. Les gens, il y a quelqu'un qui est mort, puis il y a une procession. Puis là, il voit la peau, l'absence de vie. Puis c'est frappant, ça, hein, quand un corps est sans vie. Et là, il est frappé par ça. Et on lui explique, « Ah, toi aussi, il va y avoir, la vie va quitter ton corps un moment. » Puis c'est un choc pour lui. Et ensuite, le quatrième messager, c'est qu'il voit un renonciant, un moine ou une moniale, quelqu'un qui est dans une quête spirituelle, avec peu de choses, comme habit des guenilles, des bouts de tissu cousus les uns aux autres. Puis... mais quelque chose, une sorte de paix, une sorte d'attention qui le frappe. Il lui dit, qu'est-ce que c'est ça? Je ne connais pas ça non plus. On lui dit, c'est quelqu'un qui veut comprendre la nature de la réalité, qui est dans une quête. Ça le marque profondément. Quand j'étais assis chez le médecin, j'ai l'impression, après quand j'ai entendu cette histoire-là, je me suis dit, ah oui! J'ai rencontré moi aussi, c'était dans le bureau du médecin en fait, quand le médecin m'a dit, écoute, il n'y a plus de système immunitaire, Pascal, faut absolument qu'on mette tout en branle, là, pour sinon ça va mal tourner très vite. T'sais. Puis donc, tout à coup, j'ai l'impression que ce soir-là, quand je suis allé me coucher, j'étais pas tout seul dans le lit, il y avait avec moi la mort, la vieillesse, la maladie, on était quatre maintenant à vivre ensemble. Puis c'était jeune, là, 25 ans, je ne le savais pas à ce moment-là, mais j'étais jeune, je pensais que j'étais vieux, plus vieux. Mais donc, ce qu'on cherche, nous, si on crée les conditions pour avoir une rencontre directe avec l'impermanence. La façon dont la pratique fonctionne, c'est par, comment on dit en français, inference, je crois en anglais. Alors, c'est quand on voit, quand on a une expérience d'impermanence dans un champ spécifique, à propos de quelque chose de spécifique, mais une vision là, très claire. Donc, ça prend un esprit qui s'est calmé les nerfs, qui est stable. Quand on voit quelque chose disparaître qui était présent, dépendant de la force de la vision, là, il y a quelque chose, ça se répand. C'est pas comme juste « Ah, les pensées passent et tout passe. » Ça, c'est la nature d'une insight, je sais pas comment on traduit en français, une révélation, une découverte. Alors, dans la pratique, et ça, c'est pas volontaire, hein, on peut pas, c'est pas « Ah, maintenant, je vais avoir une révélation », c'est pas comme ça. Mais il y a des conditions, la révélation, la découverte elle-même, elle est conditionnelle. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée les conditions pour se rendre compte, de ça, entre autres, de l'impermanence, qu'on voit le passage des choses. Ça, c'est une des caractéristiques qu'on voit. Ça peut être soudain, mais ça peut être aussi plusieurs fois, un petit peu, sur plusieurs années de pratique, il y a un moment où ça a trouvé son chemin parce qu'il y a eu plusieurs fois cette rencontre-là. Puis là, tout à coup, c'est une connaissance intuitive, pénétrante. Ce sont des mots qu'on utilise, une connaissance profonde. On sait qu'il y a ça. On sait que les choses sont, par nature, instables, conditionnelles. C'est une autre façon peut-être de parler de ça. C'est ça, c'est la nature instable. Je pense qu'Ajahn Chah, si je ne me trompe pas, sa façon de parler de l'impermanence, c'était de dire que les choses sont incertaines. En tout cas, là, on est dans le champ des caractéristiques universelles. Il y en a trois de façon classique, mais il y a plein d'autres mots qu'on peut utiliser. Par exemple, incertaines. Les choses sont incertaines. Il y avait quelqu'un dans un des groupes qui disait, hier, je crois, qui disait... Il y a quelque chose qui s'en vient pour moi dans 2 semaines qui est très important, puis je vois que j'y pense constamment. Je tourne tout le temps vers ce truc-là dans 2 semaines. Moi, j'écoutais, j'essayais de sentir un peu. Je me disais, est-ce que c'est possible que tu y repenses beaucoup parce que tu voudrais savoir ce qui va arriver dans 2 semaines, tu sais? Mais les choses sont incertaines. C'est dans la nature de la réalité d'être incertain. Est-ce que tu pourrais inclure ça dans ta réflexion? Te rappeler que, c'est incertain. C'est pas possible de savoir exactement ce qui va se passer dans 2 semaines à cet événement-là. On peut pas savoir exactement. C'est beau, ça, de pouvoir admettre ça dans la réalité. Là, on s'aligne avec la nature des choses. Avant, on est stressé. Qu'est-ce qui va arriver? Je sais pas. Je peux faire ça, essayer de contrôler. On peut être très agité. Puis tout à coup, si on se dit, c'est quoi la nature de la réalité? La nature de la réalité, c'est que c'est incertain. Là, l'agitation peut peut-être tomber. Peut-être qu'il y a un certain deuil à faire, d'un certain contrôle qu'on aurait voulu avoir, mais c'est incertain. On ne sait pas ce qui va se passer. Parce que les choses apparaissent quand les conditions supportant leur apparition sont présentes et disparaissent ou n'apparaissent tout simplement pas quand les conditions qui favorisent leur apparition ne sont pas réunies. J'espère qu'il va se passer telle affaire. C'est incertain. Est-ce que les conditions vont se rassembler pour que cette chose-là arrive? Certaines conditions, on peut peut-être avoir du contrôle dessus, d'autres non. Est-ce qu'on peut se détendre, accepter le fait que les choses sont incertaines? Alors ça, c'est ce qui apparaît de plus en plus dans notre attention. On se met à voir ça, que les choses sont changeantes. On s'assoit ici, on voudrait être calme, et c'est pas ça qui se passe, là. Les conditions sont telles que l'esprit est agité. On s'attendait à être très agité en venant à la retraite, ou ce matin, on s'assoit, pour une raison ou pour une autre, c'est pas exactement ça à quoi on a droit. Alors, le manque de contrôle, l'incontrôlabilité. Alors, de façon classique, les caractéristiques, c'est l'impermanence, la fugacité, le côté éphémère de tout phénomène. Incroyable. Il va y avoir séparation de tout ce qui nous est cher. Hein? Que ce soit l'autre, que ce soit un objet qui nous est cher, il va y avoir la séparation avec ça. C'est certain. Que ce soit des choses intérieures, la mémoire, des choses auxquelles on s'identifie, il va y avoir la séparation d'avec ça. Est-ce que ça peut être OK? Dans cette pratique, on pense que oui. On pense qu'en fait, si on découvre ça, on réalise que c'est comme ça, puis on fait la paix avec ça, on peut être en fait très bien, on peut être libre. Une liberté inconditionnelle qui ne dépend pas que les choses restent ou partent seulement quand on désire qu'elles partent. Alors, la première caractéristique, c'est l'impermanence, la fugacité, le côté éphémère des choses. Une deuxième mauvaise nouvelle, c'est on pourrait parler de l'incapacité qu'ont les choses de satisfaire durablement, profondément. Ça a vraiment l'air d'une mauvaise nouvelle. Tu penses, ça pourrait mener directement au cynisme. Alors, rien ne peut satisfaire complètement. Je pense que c'est quand même ce qui est l'énoncé dans les enseignements bouddhiques. Là. Si on regarde bien, parce que, entre autres, les choses passent, parce qu'elles ne sont pas parfaitement contrôlables, elles ne peuvent pas nous satisfaire complètement. Aucun phénomène. Parce qu'il va disparaître un jour. Il peut y avoir, et il y a, on ne dit pas qu'il n'y a pas, il y a complètement la jouissance, le plaisir de la profondeur dans les relations, par exemple, etc. Mais il ne peut pas y avoir une satisfaction complète. On le voit, des fois, je parle à des gens, je connais des gens qui ont voulu faire des trucs, tu sais, ils ont voulu avoir telle carrière, quand j'aurai telle carrière, tel job, tel travail. Et puis, quand cette carrière, ça peut être très satisfaisant, très riche, mais est-ce que ça peut satisfaire complètement? Non. C'est pas possible que ça satisfasse complètement parce que c'est quelque chose, c'est un travail qu'on peut perdre. Donc, il y a quelque chose, ça reste incertain, est-ce que ça va demeurer comme ça? Encore une fois, s'il vous plaît, ne me croyez pas. Ne croyez pas ces enseignements-là, c'est très important. Ce sont des propositions qu'on veut vérifier pour soi-même, si c'est vrai ou pas. On pense peut-être, quand je vais être dans cette relation-là, quand il va y avoir cette personne-là arrive, et puis là, on se rend compte que, non, c'est pas exactement parfait, mais ça vaut peut-être la peine d'être là, puis d'investir beaucoup d'énergie, puis beaucoup de beauté là-dedans, mais est-ce que ça règle tout? Non. Hein? Parce qu'il y a cette impermanence-là. Je le vois, des fois, je le disais, je ne suis pas parent moi-même, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont parents, je passe beaucoup de temps avec dans ces familles-là, et je vois les... On sent l'impermanence, l'intuition qu'on a de l'impermanence parce que les enfants rigolent, ça joue, puis là, tout à coup, il y a un des parents qui fait « Attention, attention !» Parce qu'on sait que tout peut tourner très vite. Alors, il y a cette impermanence-là qui fait qu'on ne peut pas être complètement satisfait parce que les choses peuvent disparaître d'un moment à l'autre, peuvent mal tourner, peuvent... Alors, ça vient avec... avec une certaine, je ne sais pas, ceux qui sont parents peuvent peut-être reconnaître ça, que d'avoir un enfant, ça vient aussi avec un certain stress. Est-ce que l'enfant va être bien? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que... Puis donc, dans la pratique, on est invité à s'approcher de ça, pas s'éloigner de ça, pas repousser ça... Tu sais, dans certaines spiritualités, il y a un genre de... Le mot en anglais, c'est « bypassing ». Alors, tout est beau, tout est... Ben non! Non, parce que c'est pas facile d'être un être humain, parce que les choses sont incontrôlables. Dans la pratique ici, que je trouve très réaliste, on dit « il y a ça aussi, est-ce qu'on peut admettre ça aussi complètement? » Puis vivre une vie pleine dans ces conditions-là, dans ces règles du jeu-là. Alors, l'incapacité de satisfaire, on le connaît bien dans ce qui est difficile. Les états mentaux difficiles, il y en a plein là, qui ressortaient. Ça, c'est clair qu'il n'y a pas de satisfaction là-dedans. Là, la honte, la confusion, bon, c'est clair. Même dans le passage des autres belles, la joie, la bienveillance, c'est aussi, ça va et ça vient, ça. Alors, il y a... pas absolument compter là-dessus. On a vraiment droit à beaucoup d'impermanence aujourd'hui. Au niveau de la météo, c'est incroyable, c'est le grand enseignant. Là. On a eu toutes les versions de... La troisième caractéristique, dont on parle dans le bouddhisme, puis qu'on est invité à investiguer, c'est la plus contre-intuitive, la moins évidente, la plus étrange peut-être pour plusieurs d'entre nous, c'est celle de Anatta en pali qui est non-soi, non-mien, non... je ne sais pas exactement comment on traduit en français, mais en fait ce que ça dit c'est qu'il n'y a rien, la proposition c'est qu'il n'y a rien qui nous appartient, rien du tout, pas une seule chose qu'on peut vraiment s'approprier, qui peut nous appartenir, à laquelle on peut véritablement même s'identifier, se définir par. Ça semble avoir été la recherche du Bouddha qui disait « Moi, j'ai regardé partout, j'ai rien trouvé qui était... qui pouvait... dont on pouvait s'approprier, qu'on pouvait s'approprier. » Parce que les choses étant conditionnelles, changeantes, il n'y a rien qui est absolument mien. De façon conventionnelle, oui. Dans une conversation, c'est mon coussin, puis ça c'est ta couverture, mais ultimement, absolument, est-ce qu'on peut s'approprier quelque chose? C'est une grande question, puis ça semble, les enseignements semblent dire, si tu règles cette question-là, si tu vas au bout de cette investigation-là, puis que tu trouves... Si tu arrives à te défaire de cette illusion-là d'appropriation, d'identification, c'est aussi la fin de la souffrance, comme le lien direct. Là. Quand il y a identification, il va y avoir souffrance. Moi, dans le bureau du médecin, c'était ma santé. S'il y avait une profonde sagesse que la santé, c'était quelque chose de conditionnel, profonde sagesse. Là. C'est pas facile d'atteindre ça, mais cette nouvelle-là aurait été moins choquante. Là. Il y aurait... Ah oui, évidemment, mais c'était connu. Je savais que c'était instable, incertain, que c'était sûr que ça allait passer à un moment, on savait juste pas quand. Mais là, c'était pas ça, c'était plutôt comme ma santé. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? C'est à moi qu'on me redonne. Qui m'a enlevé ma santé? Alors là, ça ruait dans les brancards, là. Évidemment. C'est naturel que ça l'ait fait. Mais nous, ici, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare à ça. Prépare notre esprit au moment où il va y avoir la perte. Pour dire, ah, c'était pas mon, ma, c'était pas moi, c'était là, c'était précieux, mais ça m'a jamais appartenu exactement. Quand on est assis ici, et qu'on pratique, quand on marche, quand on porte attention, plus on porte attention, je pense que ce sont des choses qui sont révélées naturellement. On voit qu'on ne peut pas s'approprier la chaleur qui irradie du corps. C'est un phénomène naturel, biologique. Les picotements dans les mains, les pieds, est-ce que c'est vraiment... Je peux m'imaginer posséder ma main. Ça, c'est dans l'ordre des conceptions, des idées, c'est ma main. Mais plus je m'arrête puis que je sens la rivière des sensations des mains, je vois que ça a ses propres règles, ça a sa propre vie. Il y a une connaissance de ça, mais ça s'arrête à peu près là, là. Quand je vois le passage des émotions qui arrivent non invitées, là, sans être invitées, débarquent la frustration, l'impatience, le doute de soi, pas invité, repart au moment où ça lui plaît, et parfois absolument absent. Est-ce que je peux me décrire par ça? Non, il y a le passage d'émotions. Il y a le passage de pensée. Est-ce que c'est vraiment moi? Non, ça passe. C'est quelque chose qui passe, qui est conditionnel. Plus on est attentif, plus on voit que les pensées sont conditionnelles. Les pensées arrivent parce qu'un son, parce qu'une autre pensée en amène une autre. Ça prend les conditions justes pour qu'une certaine pensée arrive, pour qu'une certaine émotion arrive. Alors on voit de plus en plus que, waouh, c'est incroyable, il y a cette danse-là. Alors ça, c'est la troisième caractéristique de l'impossibilité de s'approprier quoi que ce soit. Vous pouvez le sentir peut-être immédiatement dans votre esprit, là, si c'est contre-intuitif, si ça paraît absolument absurde ou incompréhensible, ça serait tout à fait naturel. Et c'est possible aussi qu'intuitivement, il y a quelque chose qui chez vous fasse « ouais, je comprends, wow, incroyable, on ne peut rien vraiment posséder parce que ça peut nous être pris à n'importe quel moment. » J'aime beaucoup Wu Weiwu qui dit 99% de mes pensées sont reliées à moi-même et il n'y a pas de telle chose. C'est pas étonnant que je sois très stressé. Hein? Un des problèmes qu'on voit aussi avec l'identification, l'appropriation, c'est qu'il y a séparation. Il y a moi, pas moi. Puis là, tout à coup, il y a moi et un monde. Puis là, la rencontre est peut-être possible, mais il va falloir travailler fort, il va falloir faire des stratégies, etc. Et c'est très isolant comme version du monde, là, version de la réalité. Et il y a le problème, il y a plein de problèmes. Un des problèmes, c'est ce qui va arriver à ce moi-là. Si moi existe, qu'est-ce qui va arriver au moment de la mort? Est-ce que ça va être la fin de tout? C'est stressant de penser que j'existerai plus, je n'existerai plus. Et si ça continue, c'est aussi stressant que l'autre version, parce que où on s'en va, tu sais. Alors, quand il y a une création d'un moi, je pense que je peux partager quelque chose que j'ai entendu dans un des groupes dans les derniers jours qui était ce que j'appellerais un insight à ce niveau-là. Là. Alors, il y a quelqu'un, une personne qui racontait que elle a vu, puis ça va être dans mes mots, là, je paraphrase un peu. Mais cette personne-là disait, j'ai vu tout à coup qu'il y avait un positionnement, il y avait une création d'un moi qui était un peu au-dessus des autres, par exemple, ou en compétition avec les autres ici. J'ai vu ça en action. Et c'est le genre de choses que j'imagine qu'on peut voir à un moment donné où on descend l'escalier, après la méditation, on descend l'escalier, on tourne un coin, deux, trois personnes sont là, puis tout à coup, on se défini par il y a moi, puis il y a ces méditants-là, et moi, je suis au-dessus d'eux, parce que je ne sais pas quoi. Puis là, il y a un positionnement, puis cette personne-là disait, j'ai vu ça. C'était choquant, c'était troublant de voir cette création-là. Il y a une création d'un monde qui est vraiment une création, où il y a un positionnement, parce que la personne d'après va descendre l'escalier, il n'y aura pas du tout de compétition, de positionnement. Ou encore plus, peut-être, ou d'une autre façon. L'autre va être en dessous. La prochaine personne qui va descendre l'escalier va arriver dans la salle. Ils sont tous d'excellents méditants, des personnes sophistiquées, et moi, je ne suis rien. T'sais. Et cette personne-là a vu cette création-là et l'investissement qu'il y a là-dedans. Puis à quel point c'était pas réel, c'était une création qui avait sa dose de souffrance. Puis aussi un certain investissement très engagé là-dedans. Alors ça, c'est un insight dans le non-soi. Ah, c'est pas la réalité, c'est une production, c'est une perception. Ça apparaît comme ça et ça apparaît très réellement comme ça. Je suis complètement dupe de ça, mais là maintenant je ne le suis plus. J'ai vu un peu derrière le voile, derrière le truc du magicien. Là. Alors là, il y a le début de la libération de ça, cette idée-là de séparation. Tout à coup, c'est « Ah! » C'est une illusion. Le Bouddha utilisait ces images-là beaucoup. Le mirage, la bulle qui éclate, l'apparition, le fantôme. Une image particulière autour de ça qui pourrait vous intéresser, que moi j'aime beaucoup, je reviens toujours à ça. Quand la personne décrivait ça, j'avais cette image-là qui me venait en tête. Le Bouddha, quand il parle des formations mentales, une des formations mentales, c'est par exemple, on est assis ici et on veut être avec la respiration, les sons, de façon très simple. Et là, tout à coup, il y a une formation, il y a une production. Mais moi, c'est pas le truc que je dois faire, j'aimais mieux tel autre enseignant, je sais pas quoi, ou la semaine prochaine. Il y a une grosse production, là. Puis au bout de 2 minutes, 20 minutes, ça tombe. Tout à coup, hop, on se retrouve ici à nouveau. Puis on voit que ça peut venir avec une charge émotive, tu sais, la joie extrême de ça, ou la honte. Mais c'est une production mentale. Voyez-vous un peu de quoi je parle? Le Bouddha disait, ah ça, c'est un peu comme le bananier. Il comparait ça au bananier, il disait, le bananier, ça a des grandes feuilles, hein, des très belles feuilles d'un vert extraordinaire, et ça produit des bananes, ça produit, là. La fleur énorme, après les bananes, le régime complet. Et ça porte ses fruits, puis ensuite, c'est vide au centre. Ça a l'air d'un arbre, on pense que c'est solide, tout ça. Puis après avoir produit ses bananes, pouf, ça tombe au sol, c'est complètement composté. Il n'y avait rien au cœur de ça, il n'y a rien dans le... Il n'y a pas de tronc. Il y a un tronc, mais il est vide, en fait. Et il disait, les formations mentales, moi, je les compare à des bananiers ou des arbres de plantain. Avec rien au cœur. Tu sais. Puis là, on voit, dans l'exemple de cette personne-là, qu'il y avait une production, là, il y avait une production de bananes. Là. Une grande production, il y avait une... Puis ça semblait vrai. Il y a moi, les autres. Est-ce que je vais gagner la course de la méditation? Là, j'ai vraiment le... Je me sens très libre d'élaborer, là, mais... Et là, tout à coup, on voit que c'était vide, qu'il n'y avait rien à cette... C'était une illusion. C'est très libérateur, c'est touchant, ça peut perturber, ça peut toucher profondément. Mais on voit que c'était une création de l'esprit. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. C'est pour libérer notre esprit. C'est des conditionnements qui ne peuvent pas être vus sans qu'on rassemble les conditions pour les mettre à jour, là, mettre la lumière dessus. On fonctionne à partir de ces croyances-là, de ces choses-là. Ça nous semble tout à fait réel jusqu'au jour où on se libère de ça. La libération n'est pas nécessairement immédiate. Ça se pourrait que cette production-là revienne, cette formation-là revienne. Mais là, on est un peu moins dupe. On est comme, ah oui, ok, je vois ce genre de formation-là. J'y crois un peu moins. Comme la formation, tu es une merde. Il y a un prof zen qui disait « Moi, le petit tas de merde au centre de l'univers. » Je trouvais que c'est une belle description de... Tout tourne autour de moi, je suis l'unité de mesure ultime. Toutes les pensées tournent autour de moi et dans cette formation-là particulière, c'est moi qui ne vaut rien. Mais ça, quand même au centre de l'univers. Et donc, notre pratique de silence, de calmer l'esprit, c'est pour voir ces apparitions-là. Pour que ça reprenne sa place réelle d'apparition, pas de vérité, mais d'apparition. Que les perceptions, souvent je pense à ça comme ça, je me dis, beaucoup de notre travail, c'est de remettre les perceptions à leur place. C'est de savoir qu'il y a des perceptions qui sont... Il y a des présentations, des interprétations de la réalité qui sont en fonction et que c'est que ça, que c'est pas la réalité, c'est une perception. C'est un des agrégats là, quand le Bouddha divise l'expérience humaine en cinq parties, une des parties très importantes, c'est les perceptions. Puis, il faut voir les perceptions comme telles, pas comme des réalités. Alors que nous, on prend souvent nos perceptions pour des réalités. Dans la pratique, on apprend à corriger nos perceptions. On apprend à les encadrer, à s'attarder. Ah, ça, ça apparaît comme ça en ce moment, à s'intéresser à ça pour faire ressortir la nature de perception, de mirage, d'apparition, d'interprétation. Voyez-vous un peu de quoi je parle? Ce travail-là n'est pas facile. Il faut être très attentif. Alors, le genre d'insight, par exemple, classique, là, un très très classique, les gens viennent, ils signent, moi-même je l'ai fait, puis vous allez peut-être le faire un jour aussi, vous l'avez peut-être déjà fait, signe pour une rencontre avec le prof parce que c'est très 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 important. Et là, arrive dans la salle moi ou quelqu'un d'autre devant le prof, puis il dit « Écoute, c'est terrifiant, j'étais assis, assise, calme, tout était très calme, très attentif, attentive, et tout à coup, il y a eu un courant d'air. Et là, tout à coup, il y a eu le désir de se couvrir. Et là, j'ai pris mon châle, comme ça. Et là, j'ai vu que c'était pas moi, que c'était conditionnel, que le désir de prendre le châle n'était pas personnel, c'était pas moi. C'est terrifiant, cette découverte-là. C'était conditionnel au courant d'air. Il y a eu du froid, et le froid a entraîné un désir de chaleur, qui entraînait tout à coup est né. Et donc, l'idée de prendre mon châle, j'ai vu, parce qu'il y avait une qualité de présence, que ce n'était pas tellement la version un peu plus superficielle qui est « j'ai eu froid, j'ai pris mon châle », très valable dans la vie courante. Mais là, nous, on s'en va un peu plus loin là, dans la recherche. Et la personne va dire « wow, c'était incroyable, j'ai vu que l'intention, la chose à laquelle on pourrait s'identifier plus que toute autre chose, l'intention n'était même pas la mienne. » L'intention est née de la nature des choses, du froid. Là, ça peut vous paraître comme une complète aberration, mais parfois, j'ai l'impression que vous vous couchez le soir, vous dites « Pourquoi j'ai dit ça? » Pourquoi j'ai dit ça? Ben, parce que c'était pas vous. C'était la colère, l'irritation, c'était le désir d'être vu, c'est ça qui a parlé. C'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup aux états mentaux, parce qu'on peut savoir qui va prendre les décisions. Est-ce que c'est l'irritation ou la sagesse? Est-ce que c'est la bienveillance ou la cruauté? Far out, on dirait en anglais. Hein? Alors, on est mu, ce qui nous fait parler, ce qui nous fait faire ce qu'on fait, ce sont des qualités mentales. Beaucoup. Dans cette pratique-là, on veut favoriser certaines qualités mentales parce qu'elles causent moins de troubles pour nous et pour les autres. Là, vous allez me dire peut-être, mais qui devient sage? La sagesse devient sage, la bienveillance devient bienveillante, la haine déteste, haït. Qui se resserre une autre portion de quoi que ce soit au lunch? Qui se resserre? Moi? Ah bon? Intéressant. Avec une attention plus soutenue, on pourrait voir qu'il y a quelque chose qui se resserre. Peut-être que c'est l'avidité, peut-être que c'est la faim, peut-être que c'est l'ennui, peut-être que c'est la sagesse qui reconnaît qu'il n'y en a pas eu assez. Il y a quelque chose qui se serre. Est-ce que c'est vraiment vous? Je ne sais pas. Wow! Stop! Immédiatement, sonne la cloche. C'est assez. C'est pas comme si on allait disparaître. Tout reste là, mais il y a une compréhension, en fait, c'est on passe de moi, moi-je, à la causalité. Qu'est-ce qui cause quoi? Qu'est-ce qui cause la fin de la souffrance? Qu'est-ce qui cause le trouble? Dans les enseignements, on dit il y a le nirvana, mais personne n'y entre. Il y a la souffrance, mais personne ne souffre. Alors, c'est pas moi qui le dis, là. Alors, on voit, moi, juste quand on parle de ça, je vois, ça me permet de voir que ce qu'on fait ici, là, c'est, on ne pourra pas se permettre d'avoir un esprit un peu habituel, un peu blasé. Oui, je fais la méditation, deux autres minutes, ok. Si on est là-dedans, c'est sûr qu'on ne fera pas ce genre de découverte-là. Là. C'est certain. Parce que c'est tellement subtil et caché qu'on ne pourra pas clarifier ces choses-là avec un esprit habituel là, qui part de ses idées préconçues, qui est à moitié investi. Ouais. Ça va prendre vraiment un dévouement, là, vraiment un réel désir de clarté à propos de ce qui se passe. Encore une fois, ne me croyez pas, mais peut-être qu'en considérant ces idées-là, vous allez voir à gauche et à droite dans votre vie comment « Ah, c'est drôle ça! Comment, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui fait? » C'est des conditionnements, beaucoup de conditionnements. L'habitude de ne pas parler, l'habitude de trop parler, l'habitude... On n'a pas... Le côté libérateur là-dedans, je le disais déjà ici, c'est si je ne suis pas identifié, ça facilite les choses. La pensée cruelle dont je parlais l'autre jour, si je suis identifié à ça, ça fait de moi une personne cruelle. C'est très dur de vivre avec ça. Alors qu'il peut y avoir une reconnaissance de ce genre de pensée-là, c'est pas aidant. Ça peut créer du stress, de la douleur chez les autres. On ne va pas encourager ça. Pas obligé de m'approprier ça du tout. De la même façon chez l'autre. Pourquoi l'autre dit telle chose? Pourquoi l'autre? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'identifier une action, de faire une fusion entre une action, une parole et une personne? Je peux très bien reconnaître peut-être que l'action était très néfaste, blessante, sans créer une personne autour de ça. Ça, c'est un geste qui n'est pas OK. C'est le genre d'action qui n'est pas bienvenue. Mais est-ce que c'est fait par quelque chose? Est-ce que c'est fait par cette personne-là ou c'est fait par leur confusion, par leur avidité, par leur réactivité? Moi, quand je m'assois ici, puis qu'il y a une grosse charge de frustration, d'impatience, je vois la force de ces états mentaux-là. Je peux très bien m'imaginer que quelqu'un qui a un peu moins de contrôle, un peu plus, pourrait agir là-dessus et causer du trouble. Je me suis assis au milieu de ces états mentaux-là, tellement troublants, confondants. Je peux voir comment on peut agir là-dessus. Pas que j'accepte, pas qu'on accepte, mais on peut comprendre peut-être un peu plus la force des états mentaux qui nous... Une autre façon d'en parler, c'est par exemple la générosité. Au début de la retraite, je disais, non, ces états-là sont du domaine public. Je ne peux pas m'approprier la générosité. Je peux reconnaître, par exemple, que c'est aidant, que c'est liant. Alors, si je m'approprie la générosité, je deviens quelqu'un de généreux, je suis généreux. Bon, ça ajoute un niveau de complexité, là. Est-ce que là, je suis identifié, isolé, moi je suis généreux, l'autre ne l'est pas? Est-ce que les autres vont voir que je suis généreux? Je suis généreux, est-ce que vous le savez que je suis généreux? C'est moi. Tu sais, c'est très complexe alors qu'on peut tout simplement reconnaître que la générosité, c'est bon. La bienveillance, c'est bon. Je ne suis pas obligé de me définir comme une personne bienveillante. J'ai toujours été bienveillant. Tu sais, on voit là, la perturbation, on voit la perversion là, là-dedans. Alors dans la pratique, on laisse tomber ça. On va seulement vers le discernement. Ah, ça c'est aidant. Ça c'est pas aidant. Le ressentiment, ah, c'est pas aidant de souhaiter du mal à quelqu'un. Ça, c'est troublant. On va tenter de laisser tomber ça. Pas se définir, ah, je suis tellement mauvais à souhaiter du trouble à quelqu'un d'autre. Non, il y a ça. C'est pas une bonne activité mentale. C'est pas aidant. On peut laisser tomber. J'espère que ce n'est pas trop perturbant ce dont je viens de parler. Un peu, ça me va. Ça me fait plaisir. Si c'est un peu perturbant, c'est bien. Alors, on parlait un peu, je vais finir avec ça, l'équanimité. J'ai parlé beaucoup ce week-end là, de la stabilité d'esprit. En fait, j'aurais pu utiliser, à chaque fois que j'ai dit le mot équilibre ou stabilité d'esprit, j'aurais pu utiliser le mot équanimité, la capacité d'être au milieu de ce qui se passe, sans tomber dans l'extrême de la réactivité, du désespoir, de s'accrocher, t'sais, pouvoir être là, sentir. C'est pas une indifférence, c'est pas une déconnexion, au contraire, c'est une proximité, c'est une intimité avec ce qui se passe, mais une sensibilité à ce qui se passe, mais avec beaucoup d'équilibre. Et cette qualité-là, qui est la qualité la plus haute peut-être dans la psychologie bouddhiste, on dit que c'est pas volontaire. C'est le résultat de quoi? C'est le résultat de la sagesse, d'une compréhension profonde que les choses ne sont pas miennes, ne sont pas contrôlables et ne pourront pas me satisfaire complètement. C'est une compréhension profonde des trois caractéristiques qui fait qu'un esprit peut être très équilibré. Il peut entrer dans quelque chose sans les attentes. Est-ce que ça va me combler complètement comme je veux que ça me comble? Non, non, ça ne va pas me combler complètement comme je veux que ça me comble. Ça n'a pas cette possibilité-là. Ça peut être très riche, ça peut vraiment valoir la peine, ça peut être magnifique, mais non, ça ne va pas me combler. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je vous assurais au début du week-end que cette retraite, je peux vous garantir qu'elle ne va pas être parfaite. Parce que ce n'est pas dans la nature des choses que ce soit parfait. Ni la retraite, ni le prof, ni vous-même dans votre pratique, c'est pas possible. Alors, est-ce que vous voyez là-dedans comment on peut se détendre? Ah, ok, c'est sûr que c'est un peu raté, alors on peut se détendre. Ah, ok, ça se passera pas parfaitement. Ah, ok. Ah, on peut respirer enfin. Okay, alors c'était ça qui était ça aujourd'hui. J'espère que là-dedans il y a un petit quelque chose, là, ne serait-ce que quelque chose qui va vous inviter à questionner, à aller voir pour vous-même un peu plus loin, garder la pratique vivante. Là. Alors, prenons un moment juste. Étudier le dharma, pratiquer le dharma, c'est s'étudier soi-même. S'étudier soi-même, c'est s'oublier. S'oublier, c'est devenir intime avec toute chose. Comme Gil Fransdal disait, un prof que j'aime beaucoup, il disait, c'est pas toi qui vas être libéré, c'est tout le reste. Quelqu'un qui demandait au Bouddha, quand on est éveillé, là, est-ce qu'on continue à dire je serai là, je ne crois pas? Est-ce qu'on continue à dire ça? Puis le Bouddha disait, oui, on continue à dire ça, mais on connaît les limites de ce langage-là. On sait que ce je-là est dur à attraper. Va se lever. La question demeure. Et comme les Américains le disent, c'est ma petite blague que je fais dans chaque retraite, il faut que je la fasse une fois. Alors, comme les Américains le disent, bon appétit.